vous y êtes pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou encore à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure au fond de l'eau, voilà Thomas. Salut Thomas.
Salut commandant, ça va ?
Ça va bien et toi ?
Ouais.
Je salue aussi Mathilde. Salut Mathilde.
Salut Tiffany.
Et Marin, bonsoir Marin.
Salut.
Avec la participation enregistrée mais néanmoins participative de Flavien, deux fois mais pas le même, et de Clara. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Et on commence ce sous-marin du vendredi soir avec le billet d'humeur de Thomas.
Cacoli, cacoli, cacola. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, Mathilde, Tiffen, chers auditeurs, mais alors moi, les vieux tubes, je trouve que ça se démode pas. Et la preuve, les chœurs de l'armée rouge viennent de faire leur entrée fracassante en tête du top 50 de Crimée. Je vois d'ici la scène. Des miliciens pro-russes chantent Kalinka en buvant de la vodka autour d'un feu de joie en dansant un limbo. On vide les casernes des soldats fidèles à Kiev à grands coups de pied au cul tout en descendant le plus bas possible. C'est vraiment formidable. Une fois ces images loufoques passées, il nous reste la réalité. L'Ukraine vient de se faire amputer de la Crimée. 27 100 km², soit l'équivalent de la région Bretagne. Bon, c'est vrai que la Crimée ne fait partie de l'Ukraine que depuis son rattachement en 1954 par Khrouchtchev, à l'époque de l'URSS. C'est vrai que la majorité de ses habitants sont russophones, et c'est vrai que le rattachement a été approuvé par référendum à plus de 95%. Alors où est le problème ? C'est vrai, où est le problème ? Par exemple, dans le cas similaire du Kosovo cité par Poutine, le peuple a décidé par référendum de se séparer de la Serbie. Alors, où est la différence ? Eh bien, la différence est énorme, en fait. Parce qu'au Kosovo, aucune force étrangère n'est intervenue pour apporter son soutien militaire aux partis sécessionnistes. Aucune milice, soi-disant d'autodéfense sans identifiant, n'a pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux. Les Kosovars ont en fait créé leur pays à leur image. Alors, ne nous y trompons pas, chers auditeurs, la Crimée a bel et bien été annexée. L'Ukraine est victime de l'ambition démesurée de la Russie de Poutine. Dans cette crise, remake de la crise géorgienne de 2008, Moscou teste et étend progressivement sa puissance régionale pour instaurer son rêve d'union douanière eurasiatique. Et oui, Moscou se rêve à nouveau en pôle de puissance mondiale. Et comme on l'a vu en 2008, malgré le remue-ménage de Sarkozy et toutes les fanfaronnades qu'il pouvait faire, quand la Russie décide de quelque chose, eh bien, elle le fait. Comme en Syrie, où elle défend bec et ongle Bachar el-Assad pour conserver son port d'ancrage en Méditerranée, elle prend le contrôle de la Crimée pour conserver sa base navale de Simferopol. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'Union Européenne, malgré que la crise soit vraiment à ses portes, l'Ukraine c'est à côté, eh bien, une fois de plus, elle apparaît faible et divisée. Une fois de plus, alors que l'Union est censée être une chance, on se rend compte que cette Union n'est plus une Union des peuples, mais bien une Union des marchés. À l'Est, la Pologne, les Pays-Baltes et la Roumanie, qui se rappelle encore avec horreur du cauchemar de l'ère soviétique, exhorte l'Union européenne à prendre des mesures fortes, car qui sait où s'arrêteront les ambitions de la Russie ? Que va faire Vladimir Poutine des milliers de soldats qu'il a postés à l'ouest de l'Ukraine ? Que va devenir la Moldavie ? On se le demande. Mais dans une Europe meurtrie par la crise, la City de Londres a évidemment besoin des avoirs russes, les chantiers navals de Saint-Nazaire ont besoin de livrer des porte-hélicoptères. Et les Allemands, qui sortent du nucléaire, ont désespérément besoin de gaz russe pour faire fonctionner leur économie. Résultat, des sanctions sans saveur et sans impact. La montée du nationalisme en Russie et surtout le couronnement d'un nouveau tsar. Alors, quand on voit tous les observateurs en plateau, ils applaudissent tous la rapidité de la Russie. Moi, je me demande comment cela a été possible. Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe un événement majeur, que c'était imprévisible. Par exemple, le 11 septembre, les révolutions arabes, le conflit syrien, Mohamed Merah, à chaque fois on nous dit qu'on n'a rien vu venir. Alors moi je vous demande sincèrement, à quoi servent la CIA, le MI6, la DGRS et toutes ces entreprises, organisations gouvernementales qui sont censées nous aider et nous prévenir. À croire que ces organisations sont plutôt là, comme Edward Snowden l'a souligné, pour nous espionner plutôt que pour nous aider et nous rassurer.
Merci Thomas pour cette chronique, ce billet d'humeur. On te retrouvera vendredi prochain. Dans le sous-marin ce soir, on accueille Pierre Cerciron, coordinateur à Angers de l'association Les Petits Débrouillards. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Les Petits Débrouillards, c'est né au Québec au début des années 80. Ça a été importé en France en 89. On peut dire que c'est une asso d'éducation populaire à la culture scientifique.
C'est ça.
Et dans les Pays de la Loire, c'est arrivé il y a plus de 15 ans, à Angers il y a 10 ans. Vous proposez des stages, des clubs à la Maison de l'Environnement, aussi des soirées Barbidouille au Téroc. La prochaine, c'est mardi, on en reparlera. Je le disais, c'est né au Québec. Est-ce qu'ils sont en avance sur la question de la vulgarisation scientifique ou est-ce que c'est nous qui sommes en retard ?
Alors c'est sûr qu'en France, la question de l'éducation à la science ne se pose pas de la même façon que dans beaucoup d'autres pays du monde. Après, il faut aussi savoir que la forme qu'ont les petits débrouillards au Québec est très différente de celle qui existe en France. Au Québec, les petits débrouillards, c'était vraiment de la vulgarisation scientifique. C'était les milieux du journalisme scientifique et de l'édition scientifique qui ont lancé une série de revues et de magazines qui s'appelaient Les Petits Débrouillards, avec la spécificité intéressante il s'agissait non pas juste d'expliquer des phénomènes, mais d'expliquer comment faire des expériences à la maison avec du matériel de la vie quotidienne. Et c'est lorsque les petits débrouillards ont franchi l'Atlantique pour venir en France, ça a été approprié par des acteurs de l'éducation populaire, pour lesquels la science est intéressante, mais ce qui intéresse plus, c'est la démarche scientifique, la démarche expérimentale.
Alors justement, c'est quoi la démarche expérimentale ?
Alors la démarche expérimentale, c'est une approche où on part de questionnements. On part de questions et c'est non pas un professeur, un conférencier ou un expert qui va répondre à cette question, mais collectivement un groupe qui va répondre à une question en mettant en place des expériences. Donc le gros mot qu'on pourrait mettre derrière, c'est d'élaborer un protocole scientifique. On utilise bien sûr pas ce mot-là avec des groupes d'enfants ni même avec des groupes d'adultes, mais quelle expérience on peut mettre en place pour essayer d'apporter des réponses aux questions qu'on se pose sur un thème en particulier.
Comment c'est vu les sciences aujourd'hui ? Est-ce que c'est la première approche est toujours un peu difficile ? On peut se dire que ça pourrait être rébarbatif.
Alors on a beaucoup de gens qui sont, comment dire, un petit peu marqués négativement par les sciences de par leur expérience personnelle. Il y a beaucoup de gens, beaucoup en tout cas, il y a un certain nombre de personnes traumatisées par les sciences de la façon dont eux, dans leur cursus scolaire, ils ont pu l'aborder. Après, en général, quand on fait des ateliers, notamment avec des adultes qui ont du recul, beaucoup nous disent si on avait appris les sciences comme ça, dis donc, ça aurait été très différent et peut-être que ça nous aurait plu. Après, l'appréhension de la science, elle est très très différente. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux idées reçues, plus on a une culture scientifique élevée, plus on va être critique envers les sciences. Donc un travail d'éducation à la science, d'appropriation sociale des sciences, ça ne veut pas dire faire accepter la science, mais mettre les citoyens en position de porter un regard critique et réfléchi sur la place de la science dans notre société aujourd'hui et le sens ou pas des avancées scientifiques dans notre société.
Les ateliers des petits débrouillards, ça s'adresse à partir de quel âge ?
Alors c'est à partir de 3 ans et jusqu'à 103 ans à peu près.
Et comment on fait quand on s'adresse à des enfants de 3 ans pour les faire approcher des concepts ? Alors c'est peut-être pas des concepts d'ailleurs que vous voulez...
Alors pour les tout petits, ce sera bien sûr pas la même démarche que pour des enfants qui sont en école primaire ou qui sont au collège ou que pour des jeunes et des adultes. Pour des tout petits, on sera pas forcément là pour mettre des mots sur des concepts, mais qu'on prenne un thème, que ce soit la végétation, que ce soit l'eau ou autre, que l'enfant, par l'expérience, par des outils qu'on lui propose, puisse comprendre un petit peu le fonctionnement de ces choses-là. Après, quel que soit le public, on fait aussi attention à ne pas utiliser de gros mots, même si on veut parler de choses techniques, poussées, qu'on traite en général avec un jargon. Le travail du médiateur scientifique, de l'animateur scientifique, ça va être déjà de se déconstruire, lui, ce vocabulaire. On va pas parler de tension superficielle de l'eau, on va parler de peau de l'eau, par exemple, si on fait une expérience sur l'eau.
D'accord. Alors, dans les années 90, un duo de journalistes a relevé le pari de faire aimer les sciences aux enfants dans un camion Jamy qui, à l'aide de maquettes, nous explique les marées, les volcans, le corps humain et même, je m'en souviens, les embouteillages à l'aide d'un entonnoir. Hors du camion, Frédéric Courant, qui fait le lien avec le terrain, entre une télé pour communiquer et forcément un camion conduit par Marcel. Un camion qui sillonne aujourd'hui la France avec le Science Tour initié par les petits débrouillards. Et nous, on a passé un coup de fil à Fred ce midi.
Ah, ah.
Bonjour Fred.
Bonjour.
Vous avez animé pendant 20 ans C'est pas sorcier avec Jamy. D'où vous était venue cette idée de vulgariser la science à une heure de grande écoute?
D'abord, c'est une proposition qu'on nous a faite à l'époque, un directeur d'antenne qui nous a dit « Mais vous ne voulez pas inventer une émission scientifique ?» On en faisait déjà une, enfin, on avait participé à une qui s'appelait Fractal. C'était une émission un peu rigide, un peu raide pour comprendre la science. Nous, comme on n'est pas des scientifiques, on s'est dit « Bah tiens, si on arrive à comprendre la science, les autres y arriveront aussi. » Donc, on a écrit un concept sur un coin de table, un soir, comme ça, avec un qui va en extérieur, un autre qui raconte, qui explique, et les deux personnages qui se déplacent avec un camion. Voilà, on a écrit cette émission à trois personnes, en fait. Il y a Jamy et Bernard Gonner, qui est un réalisateur, et moi.
Vous savez que vous avez fait l'éducation scientifique de toute une génération?
Ah bon, vous croyez? Non, pas tout seul.
Bah, vos cassettes étaient quand même retransmises dans les cours d'SVT.
Bah oui, je sais, ouais, c'est très bien, les enseignants l'utilisent, c'est bien. Je suis content, au moins on est utile, on sert à quelque chose. Mais on n'a peut-être pas dit notre dernier mot, hein, d'ailleurs. Hein.
Ah bon, vous allez continuer, vous avez des projets?
Bah là, vous m'appelez, je suis en plein dedans. Là. Oui, on a des projets qui sont très sérieux, donc voilà, mais qui sont toujours dans le même esprit. Le but, pour moi, c'est de transmettre de la connaissance, faire en sorte que la connaissance, qu'elle soit scientifique ou plus large que scientifique d'ailleurs, qu'elle soit accessible à tous. Ce sont les bases de la liberté individuelle et des démocraties, c'est de transmettre la connaissance au plus grand nombre de personnes possible et d'essayer de faire en sorte, en plus, que cet accès à la connaissance soit gratuit dans la mesure du possible ou vraiment très accessible à tous.
Justement, vous êtes partenaire du Science Tour avec les petits débrouillards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe et quel rôle joue finalement le camion de C'est pas sorcier dans l'aventure?
Ah oui, bah c'est très simple. Bah, c'est-à-dire que c'est le nom de C'est pas sorcier, c'est Jamy et moi qui nous appuyons énormément sur le travail que font les petits débrouillards, qui font un travail absolument superbe. D'ailleurs, moi, dans les projets dont je vous parlerai, j'espère, un jour. Je travaille beaucoup, beaucoup avec les petits débrouillards parce que c'est la plus grosse association de culture scientifique populaire qui puisse exister en France, avec un nombre de personnes bénévoles, de jeunes, etc., qui vont sur le terrain à la rencontre des jeunes pour leur faire connaître la science, pour s'amuser autour de la science, être surpris. Enfin, la démarche, elle n'est pas à tout prix de vouloir communiquer des connaissances scientifiques, c'est surtout de prendre plaisir à découvrir. C'est par ça que ça commence. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien, on travaille dans le même esprit avec les petits débrouillards là-dessus. Donc ce camion, bien, il va à la rencontre des gens, il va à la rencontre des jeunes, il va à la rencontre des écoliers, des collégiens, et on peut y faire plein de choses un peu à la façon C'est pas sorcier, c'est-à-dire que ce sont des petits laboratoires dans lesquels il y a du matériel. Ce matériel permet d'aller sur le terrain pour des groupes de jeunes, pour faire des prélèvements, pour faire des observations, des choses comme ça, et ensuite de rentrer dans les camions et puis pouvoir intégrer tout ça en informatique, faire des analyses et tout. Le camion, c'est le laboratoire, en fait, c'est le laboratoire de Jamy, mais il y a toute une partie aussi qui sont des outils qu'on peut utiliser pour aller sur le terrain et faire des expériences sur le terrain. Ça, c'était un peu mon rôle dans C'est pas sorcier, donc voilà.
Et le camion, il est toujours conduit par Marcel?
Tout le temps. Enfin, Marcel est un petit peu au chômage pour le moment, mais bon, on va essayer de lui trouver quelque chose de nouveau.
Quels sont les prochains enjeux à relever en faveur de l'accessibilité, justement, de la culture scientifique et technique?
Je pense qu'il faut jouer sur des médias très différents. Il y a eu la télé, ou il y a la télé. Il faut bien entendu aller vers des médias qui sont aujourd'hui les principaux médias utilisés par les jeunes, c'est-à-dire Internet, qui a l'avantage en plus de ça d'être transfrontalier, donc de ne pas se limiter comme une chaîne de télé pour elle faire à un pays simplement, mais de pouvoir s'étendre sur plusieurs pays, permettre une collaboration même entre des citoyens de différents pays. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'ouvrir un peu le regard qu'on peut avoir là-dessus à travers des jeunes de différents pays aussi. Ça, c'est important. Donc oui, je pense que le défi qui est à relever, c'est de réussir à se servir d'Internet, du web, pour rendre la connaissance accessible, parce que c'est un super outil, Internet, pour ça, c'est un support qui est extraordinaire, parce que accessible à tous, et il nécessite, bien entendu, des débits, des choses comme ça, c'est pas le cas partout, mais ça va venir.
Fred, est-ce que pour finir, je peux vous demander de m'expliquer quelque chose de scientifique?
Alors attendez, hein, parce que moi je suis le journaliste de terrain, moi je suis le reporter de terrain, je ne suis pas le scientifique qui explique dans le camion. Hein. Alors sinon je vous donne le numéro de téléphone de Jamier, vous verrez.
Je ne peux pas quand même poser ma question, puis on voit si vous pouvez me répondre. Comment ça se fait que quand je parle dans un micro, quelqu'un peut m'entendre dans son poste de radio?
Ah, il y a eu excellente émission fait là-dessus. Je vous renvoie sur les C'est pas sorcier sur le son. C'est parce que vous quand vous parlez, vous déplacez de l'air, hein, mine de rien. Et donc quand vous déplacez de l'air, eh bien ça fait vibrer la petite membrane du micro. Et ensuite, cette vibration qui est purement physique est transformée dans le micro en électricité. Et ça part comme de l'électricité. Et ça arrive jusqu'à une enceinte qui est l'inverse du micro, c'est-à-dire que l'électricité d'un seul coup va être transformée en vibration physique. Et ce qu'on a dans nos petits dans nos radios, ce sont des petites enceintes aussi, et ce sont les enceintes qui vibrent, qui nous restituent le son de votre voix. Et c'est comme ça qu'on est en train de parler ensemble, et c'est pour ça qu'on s'entend. Mais au départ, c'est physique, et à l'arrivée, c'est physique.
Merci Fred pour cette explication.
Oh, j'en sais rien, sinon je m'en dis ce que vous me demandez.
J'ai compris. Merci beaucoup, puis je vous souhaite bon courage pour vos projets. On espère vous revoir au téléphone pour que vous nous en parliez plus précisément.
Je n'y manquerai pas aussitôt que ce sera plus avancé.
Merci beaucoup. À bientôt.
Voilà. Oui, à bientôt. Au revoir.
Au revoir. Voilà, là vous m'entendez parce que je déplace de l'air et que ça vibre dans vos postes de radio, je crois. La totalité de cette interview est bien sûr à retrouver sur notre site internet. Un mot sur le Science Tour, Pierre Sercion.
Le Science Tour, c'est un dispositif national, mais qui se décline dans chaque région, qui est basé sur l'idée d'amener la science au contact des citoyens et des citoyennes, avec le constat qu'il y a une inégalité d'accès à la culture scientifique et technique, il y a un fossé social qui se double d'un fossé scientifique en fonction des territoires, et que c'est des territoires et des classes sociales comme les quartiers populaires et les zones rurales éloignées qui vont être les premières victimes de ce fossé scientifique. Donc, le Science Tour, c'est un dispositif mobile pour apporter la science auprès des citoyennes et des citoyens. Donc, un des éléments phares du Science Tour, ce sont des bus, justement, en partenariat avec C'est pas sorcier, des camions C'est pas sorcier de la science. Donc, dans le Grand Ouest, sur les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie, on en a deux qui, dès qu'ils commencent à faire un petit peu beau, donc à partir d'en ce moment, par rapport à l'année, sillonnent tout le Grand Ouest pour aller à proximité des collèges, des écoles, des maisons de quartier, des maisons rurales, des quartiers populaires, pour avec des animateurs petits débrouillards, pour constituer des véritables laboratoires mobiles, ou comme dans C'est pas sorcier, des groupes qui restent dans le camion pour faire des mesures, des expériences, et des groupes qui partent à l'extérieur, autour du camion, pour explorer le milieu avoisinant et faire des investigations sur l'eau, sur l'air, sur la végétation, sur des sujets qui peuvent être très 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 vastes.
Il passe à Angers.
Alors, il est prévu qu'il passe à Angers en mai. La date précise n'est pas encore fixée, donc dès que la date précise sera fixée, je pourrai vous le communiquer et vous pourrez le dire au passage sur Radio Campus si vous le désirez.
C'est pas sorcier, ça a aidé à rendre la science un peu rigolote, un peu sympa. Ça vous aide, vous, en tout cas ?
Personnellement, j'utilise peu C'est pas sorcier. Ça peut nous aider pour nous former sur des thèmes, parce que même si on n'a pas une posture d'expert quand on est médiateur scientifique, quand on intervient sur un thème, c'est toujours important de maîtriser les concepts, etc. Donc ça peut être utile là-dessus. Au niveau expérience, les expériences de C'est pas sorcier sont très visuelles, passent très bien à la télé, sont très bien amenées, mais ce ne sont pas des expériences où on amène le public à les faire elles-mêmes. Donc en général, on va plus chercher au niveau de nos ressources à nous, de nos outils, se creuser un petit peu la tête pour nous trouver des expériences où, si on est avec 12 personnes, ces 12 personnes peuvent manipuler. Et, donc on est moins dans une logique de présentation quand on est animateur petit débrouillard, quand on vit un atelier petit débrouillard. On est acteur et on fait des expériences, malheureusement on ne peut pas passer à côté.
Alors, on vient d'entendre Frédéric Courant, de C'est pas sorcier nous parler des enjeux de la vulgarisation de cette culture scientifique. Pour vous, comment ils s'envisagent, ces enjeux-là, dans les années à venir ?
Donc c'est des enjeux qui sont complexes et nombreux. Déjà, c'est faire le constat que la science a un rôle très important dans notre société et elle détermine beaucoup de choses de notre vie quotidienne, mais aussi beaucoup de choses des enjeux futurs. Il y a beaucoup de débats qui sont des débats de société, des débats politiques qui traitent en fait de sujets de science. Donc le gros enjeu pour nous, c'est de mettre la science en société, de mettre la science en démocratie. Donc à ce titre-là, au Petit Débrouillard, on va beaucoup s'intéresser aux approches de type science et société, c'est-à-dire qui questionnent le rapport entre la science et société. Donc ça, c'est un petit peu l'analyse globale des enjeux, et il y a un objectif, un enjeu pour nous, non pas seulement de vulgarisation scientifique, mais d'appropriation sociale des sciences. Que les citoyennes et les citoyens, grands et petits, puissent se dire oui, je suis légitime pour comprendre et je suis légitime pour avoir un avis sur des sujets scientifiques aujourd'hui et sur la place de la science dans la société.
Nous sommes avec Pierre Cerciron des Petits Débrouillards. On va poursuivre cette discussion après cette pause musicale imprononçable, mais que je vais quand même prononcer, Q-Tip and Eddie Kendricks, Vive Run Sing.
Check it out now. No doubt now. Yeah. Check it out now. No doubt, yeah. Special girl, real good girl. Biggest thing in my itty bitty world. Call her up and she made me feel right. Wish the bliss could never take flight. Sitting back with this mic in my hand. Spitting hot, she can kinda see green. Imprinted on my mind every minute. Make my plans and you always in it, y'all. And even though we both fly, give each other space and not the evil eye. Acting like grown-ups, don't even try to hide cause the spot blown up. Girlfriend telling you she wanna see. I say I don't know, but you say gladly. And when we both do, we go on and on and on and on and on and sweeter than Ben and Jerry. Can't rhyme, well you know I guess mine. Sitting around in my abstract car. This abstract thing going abstract far. Yeah, such a vibrant thing. Vibrant thing, a vibrant thing. Yeah, such a vibrant thing. Vibrant thing, a vibrant thing. Getting back to my MC status. All the willy that I kick make the other niggas maddest. Moving through your town and situation. Shorty thought she subtle, but she really was blatant when she shook a thing and violated. Now these wolf-like thoughts are formulated. I'm saying, oh, is this some heartfelt shit here? Am I a strong back nigga? Well, shit, yeah. Plus we can hold the convo or go to the movies, my crib, whatever, yo. Just wanna see you by my side. We on 95, know the stash is in the ride. Nigga, for real, you would find me in the cypher if I didn't cop a deal. Rap sleep like big weight. You buy, I sell, we split big cake. Who's moving little thing? Moving around, I'm shaking a little thing. Yeah, you're such a vibrant thing. Vibrant thing, a vibrant thing. Yeah, who's moving little thing? Moving around, I'm shaking a little thing. Such a vibrant thing. Vibrant thing, a vibrant thing. Such a vibrant thing. Such a vibrant thing. Vibrant thing, a vibrant thing.
Yeah, yeah,
such a
yeah.
Vibrant thing. Such a vibrant thing. Vibrant thing, a vibrant thing. Such a vibrant thing. Such a vibrant thing. Vibrant thing, a vibrant thing.
Yeah, yeah,
such a vibrant thing. Vibrant thing. Vibrant thing, a vibrant thing. Such a vibrant. Such a vibrant thing. Vibrant thing. Vibrant thing. A vibrant thing.
Yeah, yeah,
such a vibrant
yeah.
Thing.
Après cette petite pause musicale dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, je vous propose, Pierre Cerciron des Petits Débrouillards, d'écouter une nouvelle chronique. Vous avez la primeur d'écouter cette nouvelle chronique de Flavien.
Quel honneur.
Un ancien de l'émission Micro-ondes qui s'est arrêté sur nos ondes, mais qui s'est transformé en chronique dans le sous-marin. Il va nous expliquer ce qu'est le réchauffement climatique.
Salut à toi, cher auditeur. Suite à une faille spatio-temporelle,
nom de Dieu,
l'émission connue sous le nom de micro-ondes s'est totalement désintégrée. Mais que trépasse si je faiblis, la faille ne m'a pas eu moi. Flavien, ancien animateur de cette émission qui, je n'en doute pas, nous manquera à tous. Bref, c'est bon, c'est fini, on oublie, et maintenant on pense à la chronique micro-ondes. La chronique micro-ondes, c'est pas dur. En 4 minutes, vous allez comprendre,
et c'est une obligation,
des trucs scientifiques sur votre quotidien. Mais ne t'inquiète pas, auditeur, pour toi, et rien que pour toi, je vais tout expliquer simplement pour qu'ensuite tu puisses te la péter en l'expliquant à ton tour. En gros, c'est comme « C'est pas sorcier » en mode micro et à la radio. Donc, en réfléchissant 2 secondes, ça donne « micro, onde ».
Si vous avez compris ce message, vous êtes apte à comprendre la suite. Bravo!
Aujourd'hui, on accueille les petits débrouillards et leur sujet phare, c'est le réchauffement climatique. Il y a plein de trucs là-dedans, mais ce qui revient souvent, c'est les gaz à effet de serre. T'as certainement entendu parler de ça, mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est qu'un gaz à effet de serre? Attention, ne mens pas, sinon t'iras en enfer. Bon, que tu le saches ou pas, de toute façon, je te l'explique. Parce que sinon, ça sert à rien que je fasse ma chronique. Alors, le soleil, il envoie des rayons. C'est bon, jusque-là, ça va? Cool. Ces rayons, ils peuvent être infrarouges, et donc on les voit pas. Mais ils sont bien là. Et c'est ces rayons-là qui te réchauffent quand t'es au soleil. Ils viennent tranquillement, ils passent l'atmosphère, ils arrivent sur la Terre, et là, bam! Oh, non, ils explosent pas. Ils rebondissent et se barrent vers le ciel. Et là, tu vas me dire, cher auditeur, bah ça fait quoi alors s'ils se barrent? Mais là... Non, ça explose toujours pas, mais c'est l'arrivée des gaz à effet de serre. Ça fait peur, hein? Alors, ces gaz, ça peut être de la vapeur d'eau, du méthane, du protoxyde d'azote, ou même, et c'est là que ça chauffe, du CO2. Et ouais, mon gars, du CO2, ce qui peut sortir de ta petite voiture, que t'aimes appeler Titine. Ces gaz vont en fait retenir les rayons infrarouges qui font de la chaleur. Et c'est ça l'effet de serre. Si t'as bien écouté, et fais gaffe, à la fin, il y a un quiz, je viens de dire que la vapeur d'eau, c'était aussi un gaz à effet de serre. Et la vapeur d'eau, ça peut être nos jolis petits nuages qu'on voit dans le ciel. On dit même souvent, en les voyant,
« Oh, regarde, celui-là, il a une forme de... »
C'est à peu près 72% des gaz à effet de serre total de la Terre. Mais c'est pas vraiment mauvais, parce que sans eux, on se les caillerait sévère, genre du moins 8000, donc...
Merci, nuage en forme de...
Donc, tu as normalement compris le gaz à effet de serre. Mais maintenant, le truc vraiment pas cool des gaz à effet de serre, qui nous fait pas du bien, quoi, c'est tout le CO2 de nos petites voitures et toute la vapeur d'eau des usines. Et ouais, c'est pas parce que la fumée qui sort de l'usine est blanche, et que ton papa un peu scientifique, parce qu'il y science ses vies, te dit que la fumée blanche n'est que de l'eau, que c'est pas chiant derrière. C'est vrai, la fumée blanche, c'est à 99% de la vapeur d'eau. Mais ça rajoute des nuages, et donc de l'effet de serre. Comme le CO2 qui sort du pot d'échappement de ta titine.
Capito.
Donc les gaz à effet de serre, c'est ceux qui retiennent la chaleur, et à la base c'était sympa. Les nuages faisaient leur boulot, on n'avait pas le froid intergalactique. Mais en continuant à en rajouter avec nos usines, nos voitures et tous les trucs qui font des fumées ou des gaz, le chauffage va méchamment augmenter, les gars. Et là, bah, si t'as un humain un poil normal, tu dois savoir que niveau chaleur, on tolère pas à fond. Si, par trucs qui font des gaz, t'as pensé, tel un enfant, à tes pets, ou même à semi des vaches qui polluent en pétant... Et bah d'une, c'est bien parce que comme moi, t'as ton âme d'enfant, ou alors t'es débile, hein. Et de deux, t'as eu raison. Le pet pollue, messieurs dames. Humain ou non, c'est vrai. Mais pour faire autant de gaz qu'une voiture, va falloir bouffer des faillots. Hein. Donc t'as toujours le droit de péter discrètement dans le bus, en faisant genre de regarder d'un air répugné ton voisin. Sur ce, cher auditeur, j'espère que t'as maintenant compris ce qu'était qu'un gaz à effet de serre. Je te dis à la semaine prochaine pour bien comprendre un autre truc que tu vois tous les jours, mais que tu sais pas comment ça arrive.
Bye bye! À la voyure!
Alors Pierre Cercieron, les gaz à effet de serre expliqués par Flavien, est-ce que c'est concret? Est-ce qu'il a bien expliqué?
Non, c'est intéressant, c'est décalé, c'est original et très très bonne rubrique en tout cas de vulgarisation scientifique avec de l'humour, comme quoi il est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux, ce qui est un des slogans des petits débrouillards.
Alors il y a plusieurs sujets que vous défendez ou alors que vous expliquez au moins aux petits débrouillards. Il y a le réchauffement climatique, les OGM, la biodiversité, le clonage, tout ça. Et il y a aussi les fonds de pension, la fracture numérique. Est-ce que c'est encore des sciences ou est-ce qu'on rentre dans un débat politique, comme vous le disiez tout à l'heure?
Si on parle des fonds de pension, nous, on va l'aborder dans des programmes d'éducation à l'économie. Et et l'économie est une science, science économique. Après, quand on dit l'économie est une science, ça veut pas dire que l'économie est réservée aux économistes. Ça veut dire que on peut l'aborder au même titre que la science, au même titre que beaucoup de sciences humaines. Parce que la science, beaucoup de sciences dures, l'économie, ça fait une partie des sciences humaines. Et si historiquement on était beaucoup plus sur toutes beaucoup plus dures, même je pense pas qu'il y ait des sciences dures, mais des sciences humaines, et essentiellement des sciences plus de la chimie, de la physique.
Je ne pense pas qu'il y ait une différence entre les sciences dures et les sciences humaines, ça existe pas, les sciences dures et les sciences humaines.
C'est aussi binaire que ça, en fait. On rend compte que, y compris les sciences physiques, les sciences mathématiques, il y a des controverses, il y a des débats, il y a différentes grilles d'analyse au final. Donc, et c'est, ça peut pas être aussi binaire que ça, y compris parce que à l'intérieur des sciences dites dures et des sciences dites molles, il y a des méthodologies, des façons d'élaborer les protocoles qui sont extrêmement différentes. On va retrouver des débats dans tous ces milieux, des controverses scientifiques aussi. Donc pour revenir à votre question, par exemple sur les fonds de pension, donc je pense que vous avez vu une exposition qui s'appelle des questions dont on ne peut faire l'économie. Donc c'est né du constat qu'on vit la crise économique depuis 2008 et dans l'opinion publique, c'est très peu compris, très peu approprié comme thème. Et y compris très souvent, le discours, ça va être donc de faire passer l'économie pour une fatalité, une science dure mathématique. Et donc c'est la volonté au petit débrouillard d'outiller les citoyens pour qu'ils puissent prendre part au débat sur les questions économiques actuelles.
C'est là que vous défendez l'axe société, science et société en fait. Et c'est là que l'axe d'éducation populaire des petits débrouillards prend peut-être encore plus de sens.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Sciences et sociétés, par exemple, c'est l'idée sur les sciences économiques que les choix économiques ne doivent pas être laissés aux économistes et que ce sont des débats citoyens auxquels doivent avoir accès toutes les citoyennes et tous les citoyens. Oui.
Et le concept d'éducation populaire, comment est-ce que vous l'introduisez dans ces expériences et dans ces axes?
Donc,
c'est des actions peut-être parallèles.
Je dirais que presque avant d'être une association d'éducation à la science, les petits débrouillards sont une association d'éducation populaire. Dans le sens où la volonté, c'est pas forcément d'augmenter le stock de savoir des personnes qu'on a en face de nous, mais de faire émerger des pratiques, des démarches qui vont être des pratiques d'esprit critique, développer l'esprit critique, le fait d'avoir le droit de douter, de pouvoir apprendre quel que soit l'âge, éduquer au débat aussi. Donc la science, parfois plus qu'une finalité, ça va être un outil. On va se servir de la science pour éduquer à l'esprit critique, au débat et à des fonctionnements plus démocratiques et plus horizontaux.
Il y a un outil, je ne sais pas si c'est un outil, mais en tout cas c'est un support dont nous on peut se servir. Chez les petits débrouillards, c'est le wiki, c'est le site internet avec des recettes d'expérience.
C'est ça, un site internet qui s'appelle Wiki Débrouillard. Donc vous pouvez le chercher sur un moteur de recherche ou taper directement Wiki Débrouillard, débrouillard au pluriel .org. Et comme tu dis, c'est un petit peu comme un site internet de recettes où tu trouveras un certain nombre d'expériences. Et du coup, quelque chose de très important pour les petits débrouillards, c'est y compris que les gens, les enfants puissent refaire les expériences chez eux et puissent se dire oui, je suis capable de la faire. Ça ne demande en général pas grand chose. On a tous des pailles, des ballons, etc. à la maison. Donc une façon de refaire chez soi. Et l'autre point du coup qui à noter à travers ce site internet, c'est que les petits débrouillards font la promotion du libre en fait dans le numérique de tout ce qui est logiciel libre, parce que ça ouvre des perspectives de société qui sont extrêmement intéressantes à l'heure actuelle.
Bon, alors l'actu qui arrive tout de suite au petit débrouillard, tout de suite, enfin dans quelques jours, c'est la prochaine soirée Barbidouille au T-Rock.
C'est ça.
Alors, Barbidouille, c'est quoi? C'est une soirée où on fait des expériences scientifiques. C'est
alors,
mardi.
Barbidouille, c'est plus à destination des jeunes et des adultes, hein, que ce soit clair déjà. C'est public adulte, donc en général, on a beaucoup de jeunes qui viennent dans ces soirées-là. On a l'habitude de faire ça au bar Le T-Rock Coco sur Angers, de 19h à 21h. Et on vient quand on veut, on repart quand on veut. Et sur place, les petits débrouillards, que ce soit des bénévoles, que ce soit des salariés, ils sont là pour proposer des expériences, pour proposer des manipulations. Donc d'où le côté Barbidouille, parce que on vient là pour mettre la main à la pâte et seront proposés aux personnes de passage déjà de boire un verre avec les membres de l'association, mais aussi de faire des expériences. À chaque fois il y a un thème, donc par exemple le dernier Barbidouille c'était sur le numérique. Donc on avait installé par exemple un piano, un synthétiseur banane, où en fait les touches étaient des bananes, il s'agissait de toucher les bananes pour faire de la musique. Et là, le thème de mardi prochain, c'est les cinq sens. Donc barbidouille autour des cinq sens, ça dure 2 heures et on va proposer des expériences et mettre au défi les cinq sens des personnes qui passent. Et je peux peut-être me permettre de faire une petite annonce supplémentaire. C'est que pour les auditeurs qui auraient écouté l'émission Le Sous-Marin d'aujourd'hui, on aura une expérience qui s'appelle Le Sous-Marin au Barbidouille la semaine prochaine. Donc rien que pour vous, cette expérience sera cachée. Et c'est pour les auditeurs qui auraient écouté cette émission, qui demanderaient d'avoir l'expérience spéciale auditeur de Radio Campus, qui pourront avoir cette expérience mardi prochain.
Mardi prochain au T-Rock Coco, 19h-21h. Merci beaucoup Pierre Cercieron d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le coordinateur des Petits Débrouillards à Angers.
Merci à vous.
Alors, on est vendredi, et le vendredi, c'est chronique sexo. Avec Clara, on change complètement de thématique, quoique ce soit aussi des sciences après tout. Notre chroniqueuse vous propose une nouvelle série, Confession d'un inconnu, qui ce soir est une inconnue. On écoute.
Les confidences d'une inconnue. Donc aujourd'hui, notre inconnue a 20 ans. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à quel âge as-tu couché avec un mec pour la première fois ?
Ma première fois, c'était quand j'étais en seconde, donc j'avais 15 ans.
T'avais 15 ans ?
Ouais, voilà, c'est ça. Et lui aussi avait 15 ans.
Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce que t'as rencontré des contraintes ou des problèmes particuliers justement pour ce premier rapport ?
Ouais, j'avais peur en fait, toutes les conneries quand on est jeune, peur de tomber enceinte, peur d'avoir mal, tous ces petits trucs. Mais sinon, non, pas trop de contraintes.
Ça s'est pas fait dans un lieu atypique ou
Non, du tout. Non. C'était chez moi, voilà.
D'accord. Et vous étiez en couple ?
Ouais, on était en couple. On était en couple depuis 6 mois, je crois, un truc comme ça. Et du coup, ouais, non, c'était pas du tout atypique. Ça s'est fait d'une façon banale.
As-tu vu ton approche du sexe évoluer depuis le temps, du coup ?
Ouais, je pense. Je pense que maintenant, je vois ça moins comme quelque chose de... De comment dire, quelque chose pas de sacré, mais maintenant c'est plus banal, quoi. Je m'en fiche un peu, quoi. Enfin, la personne avec qui je fais l'amour, ça a moins d'importance que ça en avait à cette époque-là.
D'accord. Et pour toi, faire l'amour, c'est aussi aimer ? Ou tu peux détacher le sexe justement de l'amour ?
Je pense qu'on peut détacher. Après, il y a certaines limites. Je pense qu'à un moment, t'es obligé de t'attacher à la personne si. Si voilà, s'il y a relation, etc.
Et justement, t'as peut-être une mauvaise expérience à me confier ?
Une mauvaise expérience. Si, ouais. Une fois dans une voiture avec un de mes potes, donc très très alcoolisé et dans une voiture, ouais, hyper naze, quoi. Trop nul. C'était trop nul et voilà.
C'était bof.
Ouais.
Est-ce que tu as un fantasme le plus fou, si tu en as un, à me confier ?
Un fantasme. Écoute, j'en ai pas vraiment là sur le coup. Après, si, ouais, tant que tu me le dis, genre dans un lieu public, avec un peu de monde, en mode faut qu'on soit discret, etc.
Est-ce que tu en as déjà réalisé un ?
Un fantasme. Est-ce que j'en ai déjà réalisé un ? Si, sur la plage.
Ah.
Genre en mode. Voilà quoi.
Sympa, en mode vacances quoi.
Ouais, en mode vacances.
Est-ce que tu vas sur des sites pornographiques ?
Non, je suis déjà allée sur des sites porno, mais non, c'est pas trop mon truc, c'est pas le genre de truc qui m'excite.
C'est pas rituel, quoi.
Voilà, non, pas du tout.
Tu vas plus peut-être quand tu es célibataire.
Ouais, voilà, peut-être aussi, c'est pour ça.
Quelle est ta position préférée ? Ou plusieurs, si tu en as plusieurs préférées, ça peut arriver aussi.
Qu'est-ce que j'aime bien en position ? Après, je connais pas le nom des positions, donc ça va être compliqué de te dire, mais... J'aime bien quand je suis un peu assise sur lui assis aussi, et du coup, enfin voilà, un peu face à face comme ça. Sinon.
Que tu vois l'autre, quoi.
Ouais, voilà, j'aime bien ce genre
que
de position.
C'est harmonieux.
Ouais, c'est ça.
Et combien de positions peux-tu faire en un acte amoureux ? Ou le maximum que tu aies pu faire ? Parce que c'est vrai qu'on peut en faire quand même.
Ouais, c'est sûr.
Plusieurs.
Ça dépend de combien de temps ça dure, quoi.
Bien sûr, voilà.
Du coup, combien de positions ? Ouais, je pense 4-5, quoi. Je pense dans un acte, ouais.
Régulièrement, tu vois.
Ouais, minimum 3, ouais. Ouais, maximum 4-5, je pense, ouais.
D'accord. Beaucoup de personnes n'aiment pas les préliminaires. Donc, est-ce que c'est ton cas ?
Non, pas du tout. Moi, c'est un peu ce que je préfère dans l'axe.
Tu trouves ça important ?
Ouais, je trouve ça important. C'est ce que je préfère.
Ça prépare le terrain, quoi.
Ouais, ça prépare le terrain. Et puis même, je sais pas, je trouve ça agréable, c'est tendre, c'est cool. Moi, c'est ce que je préfère.
C'est donnant-donnant.
Voilà, c'est donnant-donnant.
Alors, tu te sens hétéro à 100% ou as-tu déjà pensé à essayer avec une nana ou un truc assez atypique, un plan à trois ou même en soirée avec une amie
Je me pense hétéro à 100%. Après, pourquoi pas essayer une fois avec une fille ? C'est vrai que j'en ai déjà discuté parfois. Ça peut être une expérience et ça peut être cool. Hein. Après tout, pourquoi pas essayer
T'as jamais
un
fait,
jour. J'ai jamais fait, mais pourquoi pas un jour, peut-être, ouais.
D'accord.
Ça peut être une expérience.
Bah écoute, merci.
De rien.
Dans le sous-marin, on écoute Every Man Has Your Voice, Seasons, Battles Are Handproof, Part 2. Merci David pour ces titres à rallonge. Vendredi, on retrouve l'électrique Mathilde pour la page culturelle du sous-marin. Mathilde, qu'as-tu fait cette semaine ?
Cette semaine, au détour d'un trajet de bus des plus ennuyants, j'ai feuilleté toute la prog du Shabada sous tous les sens. Sweet Gumtree, c'était l'artiste invité mercredi soir et ce qui m'a motivée, c'était d'abord de m'éloigner pour une fois de la sphère électro. Et puis j'ai vu qu'il avait enregistré au studio Black Box et j'ai aussi vu le prénom d'Isobel Campbell à côté du sien. Goodbyes. Le projet solo d'Arnaud Sojo, Sweet Gumtree, fait plus parler de lui dans la presse anglaise où il va faire sa première tournée en appui avec un label londonien. Le très noble magazine anglais Mojo a aussi mis le doigt sur ce projet à l'occasion de la sortie de The Snake You Charm, The Wolf You Tame. De premier abord, je me suis dit que ça n'était sûrement pas le genre de musique qu'on avait envie d'entendre dans ces moments où on a envie de se pendre. Mais dans le même style que l'album d'Isobel Campbell, avec qui il a déjà chanté, les violons donnent à sa musique un côté psyché et profondément mélancolique. Sa voix rauque et rock, c'était comme celle d'un conteur qui nous conterait une balade en anglais, et même parfois il finissait par murmurer. Guitariste, chanteur, pianiste, j'ai lu quelque part Arnaud Sojo est l'héritier Frenchy de Mark Lanegan, de Queen of the Stone Age. Il s'entoure donc de bons artistes pour cet album et j'espère qu'il ne restera pas d'une notoriété éphémère. Mais est-ce que le public dans ce moment est réceptif à de la pop acoustique aux airs mélancoliques? Le public anglais l'est pour le moment et celui du Shabada semblait l'être mercredi soir.
Après ce live report, Mathilde, qu'est-ce que tu nous conseilles pour la semaine à venir?
Une grande sage a dit un jour « Je pense qu'on peut rire de tout à partir du moment où on n'a pas mauvaise haleine ». Alors non, je ne suis pas subitement possédée ou sous l'emprise de stupéfiants, je ne fais que citer l'artiste qui arrive très prochainement au Shabada jeudi prochain. Pour deviner en quelques termes, elle est petite, blonde, lituanienne, avec une guitare acoustique et son nom change de prononciation dans chaque bouche. Elle semble vivre dans un monde plein de pâquerettes et chante sur sa petite voix des insanités politiquement peu ou pas du tout correctes. La censure ou la demi-mesure, ça n'existe pas dans les textes de Guidry. En vous regardant droit dans les yeux d'une vidéo YouTube, elle chante avec sa guitare d'une voix enfantine « Ferme ta gueule et apporte-moi une bière » ou « Des bébés congelés, étouffés ou brûlés à pisser debout » ou « Les femmes qui sont toutes des putes ». De la ménopause à la méthode du retrait, elle parle de tout ce dont personne n'ose parler dans la vie de tous les jours, de monsieur ou madame tout le monde. Elle sera au Shabada jeudi soir prochain.
Une association d'étudiants du théâtre et ce depuis 1992. Magnifique, non?
Les Trois Coups, c'est une association de théâtre à Luco qui existe depuis longtemps d'ailleurs, si vous faites le calcul, et leur but c'est de produire un festival annuel d'art de scène. Nous sommes la seule association angevine à produire un festival de théâtre entièrement créé par des étudiants. Des projets théâtraux mis en scène de manière parfaitement autonome, c'est ce qu'ils proposent en ce moment. Et cette semaine, ils nous proposent deux pièces à Luco dans le hall Bazin. Entre Level Geek et Macbeth, cette semaine, on change de cap, orientons-nous théâtre. Ils accueillent cette année des troupes de théâtre de chaque campus, comme les Zygomatiques, les Tréteaux de l'Université d'Angers, les Quiproquos de l'Agrocampus et les Improvisiaques. Ce sont les Quiproquos qui organisent mardi 25 dans le Hall Bazin une représentation d'une pièce d'un master des œuvres théâtrales, c'est Macbeth de Shakespeare. Vous la connaissez, cette pièce où un valeureux chevalier avec la rage de vaincre devient baron en récompense d'une bataille épatante. Mais comme si ça ne suffisait pas, la couronne, c'est quand même beaucoup mieux, non? Ce qui donne Macbeth, ou le roi le plus corrompu, arrogant, violent et mégalo de l'histoire du théâtre. Une pièce de Shakespeare autour du pouvoir et du personnage le plus exécrable, oui, exécrable, présenté mardi à Luco par l'équipe Rocco à l'occasion du festival. Dans le cadre des Trois Coups, toujours, c'est Level Geek. Parce qu'on a dit que c'était des étudiants de A à Z, j'ai contacté Floriane Bibard, une étudiante qui nous présente une création. Avec 7 ans de théâtre en loisir, elle avait comme projet d'écrire une pièce avec d'autres comédiens où tout le monde apporterait ses idées et paf, pas une mince affaire. Mais une chose en entraînant l'autre, Level Geek, elle a dû l'écrire toute seule et c'est sa toute première création, la première fois qu'elle écrit. Son but, c'était de partir dans un délire complet théâtralement et initier les autres au très vil monde des geeks. Level Geek, ce sera deux comédiens qui exposent de manière complètement loufoque et délurée la vie virtuelle du geek et la vie quotidienne des super-héros. Elle m'a même dit pour la confession, je suis moi-même complètement geek, bah très bien. Un spectacle d'initiation qui est proposé, où l'imaginaire devra être à l'affût avec l'interaction avec le public, puisqu'il jouera aussi un rôle, celui des noobs anonymes. Alors pour tous ceux qui ont un fond de geek en eux, vous savez ce que c'est qu'un noob. Vulgairement, c'est un nouveau dans le monde virtuel des jeux vidéo. Et Floriane Bibard jouera alors le rôle de l'interlocutrice pour un nouveau monde à découvrir. C'est à 20h à l'amphi Bazin de Luco lundi soir.
Et d'ailleurs à 19h lundi soir dans le sous-marin, il y aura les membres du festival des Trois Coups pour une émission consacrée au festival et dans le reste de la prog, Mathilde est dans le désordre.
En attendant, le soleil qui revient comme ça, je ne vous parle pas météorologie, ne vous inquiétez pas, mais dans ma tête, ça signifie aussi une chose, c'est que les festivals vont recommencer à fleurir partout, à commencer par les éclectiques et le printemps de Bourges en avril, les trois éléphants, la septième vague et Rock and Solex en mai, bref, que des choses croustillantes à se mettre sous la dent musicalement. En attendant, cette semaine, il y a aussi une soirée électro avec Boomchak au Jacaré mercredi soir, et pour les plus hardcore d'entre vous, une soirée Angers Likes Metal au T-Rock vendredi prochain. Pour ceux qui veulent élargir leurs horizons musicaux, bien sûr. Quant au concert de Yodelis, qui est déjà complet, vous n'avez plus qu'à pleurer si ça fait deux fois maintenant que vous ratez au Shabada.
Merci Mathilde, et moi j'ajoute que demain l'Asso Mixture organise l'événement Intrusion. Intrusion, ce sont 6 concerts organisés dans 3 lieux de la ville, des concerts gratuits. On écoute Thomas Courtin, vice-président de l'Asso, nous parler de cette journée. C'est venu d'où cette idée, Thomas ?
À la base, c'est un projet qu'on organise dans le cadre de nos études, un projet événementiel qu'on qu'on a à présenter. L'idée, elle est complètement spontanée. En fait, on n'avait pas forcément de normes pour ça, et donc on a décidé de proposer un concert un peu différent de ce que on propose d'ordinaire. C'est-à-dire que d'ordinaire, les gens vont consommer un concert, et là, l'idée, c'était d'amener un concert auprès des gens. Donc intrusion, comme son nom l'indique, on s'introduit dans la vie des gens en quelque sorte, dans des lieux d'affluence, pour proposer des concerts un peu différents de ce qu'ils auraient pu normalement voir et entendre.
L'interview entière est à retrouver sur notre site internet. Je cite encore quelques noms de la prog d'intrusion: Ungard, Torsen, Lula Box ou encore San Carol. Ça commence à 15h à la gare. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine présentée par Marin, notre stagiaire de la semaine, dont c'est le dernier agenda.
Donc à 20h, le bar du Quai organise une soirée slam animée par Poison d'Avril. Ce soir au Welsh, je vais donner une soirée cabaret avec la Ligue d'improvisation angevine, aussi appelée la Lima. C'est à 20h15. À 20h30, dans le cadre du Printemps des Poètes, le Cartenet propose une soirée poésie, musique et danse autour du tango. Il faudra compter de 5 à 7 euros. Comme tous les mois, au Terroir Coco est organisé un jam jazz, et c'est à 21h30. Au Jacaré reçoit ce soir Loopsine Acoustique, un groupe de reggae acoustique. Le concert commence à 22h et l'entrée est gratuite. Polaroid 3, un groupe de pop, passe au Joker's Pub à 22h. Le prix va jusqu'à 5 euros et vous pouvez retrouver l'interview de ce groupe sur le site de Radio Campus Angers. Joueront par la suite Kids of Math ainsi que deux DJ. Si travailler dans le social vous intéresse, demain, l'Arift Safran organise une réunion d'information de 10h à 12h. Vous pouvez trouver plus d'informations sur www.arift.fr. Demain encore, avec le concert de Rodolphe Burger à l'abbaye de Frontevraud à 18h, où il interprétera le Cantique des Cantiques. Vous pouvez réserver vos places sur le site internet de l'abbaye de Frontevraud.
Merci Marin pour tous tes agendas de cette semaine. Voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez nous réécouter sur le www.radiocampusangers.com. Tout de suite sur Radio Campus, vous retrouvez Sine Qua Non. Salut Thibaut. On va t'ouvrir ton micro.
C'est gentil. Salut Mathilde, salut l'équipe.
Salut Mathilde, et oui.
Ah, Tiffaine, on est tous crevés. Voilà, mais moi c'est Thomas, toi c'est Mathilde.
Voilà, appelons-nous ce soir, comme on veut. Ouais. De quoi on parle ce soir dans le Ciné Qua Non ?
Alors, cette semaine, on allait voir le dernier film de Spike Jonze, donc Her, avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson. On a aussi regardé un vieux documentaire, enfin vieux de 98, de Romain Gavras et du collectif Courtragemé, qui porte sur le roi Enoch, un phénomène du rap francophone. Et on revient sur une série japonaise, My Boss, My Hero.
Voilà, si vous voulez savoir s'il faut aller voir Her, c'est dans 7 minutes sur le 103FM. Merci Thibaut. On vous laisse avec la bulle sonore, comme tous les vendredis, c'est le zapping concocté par Flavien, les meilleurs moments de la semaine sur le 103FM. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers et un très bon week-end aussi. Nous, on se retrouve lundi à 19h. Allez, bisous.
C'est une émission, Marc, je t'avais pas prévenu, une émission sur l'humour, les blagues, et ça commence comme ça, je te fais une super blague, en fait tu n'apparais pas à l'émission ce soir. Vas-y, parle pour voir là, si t'es là. Bon, eh bien, je vais faire l'émission tout seul, en même temps, ça faisait un bout de temps que j'en ai un peu marre de mon collègue, donc ça tombe bien. D'accord, je te dis au revoir. Ah mince, ça y est, il est revenu.
Là, tu m'entends là ?
Bah, j'en ai bien peur.
Eh ben, c'est une très très mauvaise nouvelle.
Très mauvaise nouvelle, en effet.
Et le jeudi dans le sous-marin, c'est économie. Hé, hey, Rémi !
Ah non ! Hé, hey, Rémi ! Aujourd'hui, les enfants en parlent de ça.
Est-ce que t'as une blague pour commencer ?
Ah, non.
Non ? Même pas ?
Ah, j'ai ouï dire que tu avais préparé quelques blagues.
Ah non, on t'a menti. Ah, on t'a menti, on s'est bien foutu ta gueule d'ailleurs.
Excellent.
Ah, sur ce coup-là.
Excellent.
Non, tiens, tu connais la blague de Toto aux toilettes ?
Non, vas-y.
Eh ben moi non plus, la femme à la porte.
Très bien.
Je vous propose quelque chose, c'est de voyager dans le temps tous ensemble. Allons-y et retourner en 2012.
Mais 2012, mais c'est loin.
Si loin.
Une année. J'avais encore 2-3 ans, je faisais 1m10.
Pour ce faire, on va utiliser une technologie tout à fait novatrice qui s'appelle le bruitage à la bouche. 2012. Technologie tout à fait novatrice. Faut la faire breveter à mon avis.
Mais tout est en noir et blanc ici. C'est incroyable.
Donc nous sommes maintenant à une époque bénie. Les hipsters ne nous ont pas encore envahis et la Wii U n'est pas encore sortie.
Bonjour Fred.
Bonjour.
Vous avez animé pendant 20 ans C'est pas sorcier avec Jamy. Comment ça se fait que quand je parle dans un micro, quelqu'un peut m'entendre dans son poste de radio?
Ah, il y a eu excellente émission faite là-dessus. Je vous renvoie sur les C'est pas sorcier sur le son. C'est parce que vous quand vous parlez, vous déplacez de l'air, hein, mine de rien. Et donc quand vous déplacez de l'air, eh bien ça fait vibrer la petite membrane du micro. Et ensuite, cette vibration qui est purement physique est transformée dans le micro en électricité. Et ça part comme de l'électricité. Et ça arrive jusqu'à une enceinte qui est l'inverse du micro, et c'est comme ça qu'on est en train de parler ensemble, et c'est pour ça qu'on s'entend. Mais au départ, c'est physique, et à l'arrivée, c'est physique.
Merci Fred, pour cette explication.
Oh, j'en sais rien, c'est vachement dur, ce que vous me demandez.
J'ai compris.
Merci à tous d'avoir participé à ce Tic Tac Boom Club exceptionnel du bazar. Merci à Karim, un grand big up à Karim. Ouais. Et merci à Radio Campus, à David le technicien qui a tout géré, toute la programmation. Ouais. Et merci à vous tous et à bientôt.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.